à
tout à l'heure.
Pascal Hagenmüller, donc du Centre d'études de la neige, qui va nous parler donc de l'évolution du risque d'avalanche en montagne. Et donc voilà, et donc est-ce qu'avec moins de neige, on a moins de risques d'avalanche ou des avalanches différentes? Voilà, donc c'est la question, Pascal, que l'on te pose. La
Merci
parole est à toi.
Jean-Michel. Est-ce que tout fonctionne? Vous m'entendez? Vous
Ben
voyez ma
écoute, oui,
présentation?
on te oui, tout à fait, on t'entend bien, on te voit et on a ta présentation. C'est parfait.
Ok, bah, merci Jean-Michel pour cette introduction et bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de l'évolution des avalanches avec le changement climatique. Et ma présentation, elle est basée sur différents éléments issus de la littérature scientifique, mais aussi sur des travaux menés et en cours, qui sont menés par mon laboratoire, en forte collaboration avec l'unité érosion torrentielle, neige et avalanche de Grenoble à l'INRAE. Alors, tout d'abord, je vais commencer par quelques éléments de contexte. Alors, c'est quoi une avalanche? Une avalanche, c'est une masse de neige qui se détache d'un versant d'une montagne et puis qui dévale une pente. Donc, il y a deux ingrédients essentiels, c'est qu'il faut au moins qu'il y ait de la neige et au moins qu'il y ait une pente. Alors, est-ce qu'il y a encore de la neige? Donc, sur ce graphique-là, on peut voir l'évolution de l'enneigement sur notre station d'observation long terme du col de Porte en Chartreuse. Donc, c'est un site d'altitude relativement modeste de 1325 mètres. Sur le graphique d'en haut, on peut voir la hauteur de neige moyenne sur la période du 1er décembre au 30 avril depuis 1960. Donc ce qu'on peut voir, c'est que sur ce site-là, on a perdu une quarantaine de centimètres en 30 ans, donc entre la période 1960-1990 et la période 1990-2017. Donc oui, il y a de moins en moins de neige à cause du changement climatique à ces basses altitudes-là. Et c'est dû à quoi? Si on regarde le graphe du milieu, c'est la température moyenne sur ce site d'observation. Donc la température moyenne a augmenté d'environ 1 degré en 30 ans. Et si on regarde le graphique d'en bas, est-ce que les précipitations totales ont évolué? Il n'y a pas de tendance significative. Donc on a bien de moins en moins de neige à basse altitude à cause d'une élévation des températures sans tendance significative sur les précipitations. Alors, il y a moins de neige parce que le manteau neigeux fond plus vite et parce que la précipitation tombe plus souvent sous forme de pluie. Alors, est-ce que moins de neige veut dire moins d'avalanches? Donc, je pense qu'on a déjà compris avec la présentation de Samuel que sa question était un peu trop simple. Mais je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse et essayer de préciser cette question dans ma présentation. Alors, avant de parler vraiment de l'évolution avec le changement climatique, je vais faire quelques rappels sur l'aléa, donc sur le phénomène lui-même. Donc, les avalanches, c'est un aléa qui est multifactoriel. La première des dépendances, elle est au terrain. Donc c'est ce qu'on appelle souvent un facteur fixe, parce que la topographie, on la considère comme fixe. La végétation, si on regarde aux échelles de temps climatique, on ne peut pas la considérer comme fixe. Donc en gros, le couvert forestier va être très impactant l'évolution du manteau neigeux. Donc ça peut stabiliser le manteau neigeux et également aussi légèrement modifier l'écoulement d'une avalanche si la forêt est assez dense. Ensuite, il y a différents facteurs. Facteur non fixe. Donc les avalanches, ça ne dépend pas uniquement de la hauteur moyenne de neige. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 mètres de neige qu'il peut y avoir des avalanches. Ça dépend vraiment de processus plus fins à plus courte, sur une plus courte période de temps. Donc le facteur météorologique qui va être à l'origine des situations avalancheuses typiques, à l'origine de crues avalancheuses, c'est surtout le cumul de neige récente. Savoir combien il a neigé dans les derniers 3 jours, dans les dernières 24 heures. Ça va être déterminant pour estimer la probabilité d'avoir une grande avalanche. Ensuite, il y a un autre facteur météorologique, c'est le vent. Donc le vent va redistribuer la neige dans différentes zones et peut créer des cumuls importants qui vont être un facteur aggravant du cumul de neige récente. Ensuite, il y a également le bilan thermique. Si on a une évolution rapide du manteau neigeux lié à la fonte de la neige, que ce soit par l'occurrence de pluie sur un manteau neigeux sec ou par le rayonnement solaire ou l'augmentation des températures, on peut avoir des crues avalancheuses, de neige humide. Et enfin, le dernier des facteurs qui est lié à la stratigraphie du manteau neigeux, donc ça c'est plutôt une évolution interne au manteau neigeux qui va créer des couches plus fragiles dans le manteau neigeux, ce qu'on appelle les sous-couches fragiles persistantes, qui vont être à l'origine d'avalanches avec un départ très étendu. Donc en gros, la combinaison de tous ces facteurs-là, de terrain et de drivers météorologiques, font que le contrôle climatique, il est certes intuitif parce qu'on sait que s'il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'avalanche, mais il est complexe et difficile à établir au final. Ensuite, Le deuxième des rappels, c'est sur les enjeux. Qu'est-ce qui est exposé au risque d'avalanche? Il y a vraiment deux enjeux différents. Généralement, on distingue le terrain contrôlé et le terrain non contrôlé. Donc, dans le terrain contrôlé, on entend surtout tout ce qui est zone urbanisée, route, etc. À peu près tout ce qui est soumis à un plan de prévention des risques. Donc là, sur ce type de terrain, c'est surtout des avalanches qui se déclenchent spontanément qui vont être le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élément de déclencheur particulier, il n'y a pas quelqu'un qui passe un explosif ou quelque chose qui va déclencher l'avalanche, c'est juste la stabilité de montant des jeux qui est trop faible et l'avalanche se met à couler de manière spontanée. Il y a le terrain non contrôlé. Donc le terrain non contrôlé, c'est tous les pratiquants de la montagne qui s'exposent librement à certains risques en montagne et qui vont pour la plupart des cas déclencher eux-mêmes l'avalanche qui va les ensevelir. Donc si on regarde un peu le nombre de décès liés dans le terrain contrôlé ou le terrain non contrôlé, donc ici c'est sur l'ensemble de l'arc alpin européen. La hauteur des barres représente le nombre de décès. En bleu clair, le terrain contrôlé. En bleu foncé, le terrain non contrôlé. Donc sur l'arc alpin, on a environ 100 décès par an liés aux avalanches. Et on a deux tendances qui sont différentes. Sur le terrain contrôlé, on a une tendance à la diminution du nombre de décès par avalanche. Donc terrain contrôlé, c'est dans les maisons, sur les routes. Et sur le terrain non contrôlé des pratiquants de la montagne, on n'a pas vraiment de tendance, mais plutôt stable autour d'une centaine de décès par an, bien que la pratique est exposée. Donc en termes de bilan humain, les enjeux sont très différenciés. Si on regarde le terrain non contrôlé, on a surtout des accidents qui sont liés aux pratiques. C'est très difficile à relier les accidents à la neige, à l'enneigement moyen. Sur ce graphique-là, on peut voir donc la barre verticale bleue, c'est la quantité d'enneigement dans les Alpes à 1800 mètres, est-ce qu'on a un bon ou mauvais enneigement. Et en rouge, on a le nombre de décès par avalanche en France depuis 1984. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a à peu près 30 décès par avalanche par an en terrain non contrôlé, et qu'il n'y a pas de corrélation évidente entre la quantité de neige présente et le nombre de décès en terrain non contrôlé. Donc là, ce qui est difficile, c'est que l'accidentologie en terrain non contrôlé, elle va surtout être liée au comportement, à l'évolution des méthodes de secours, aux méthodes de prévention, etc. Et c'est très difficile d'en extraire un contrôle climatique, voire c'est impossible. Et donc d'en estimer les projections dans le futur. Maintenant, si on regarde le terrain contrôlé. Donc là, on observe qu'il y a une exposition, une vulnérabilité qui est en évolution.
C'est ouais, voilà.
Il y a un micro qui est ouvert, je crois. Oui. Du coup, il y a une étude récente de Talin Xaib à l'INRAE en collaboration avec Météo France, qui a étudié l'évolution précise de la haute moyenne depuis 1860. Donc elle a regardé pas uniquement l'évolution de l'aléa, mais aussi l'évolution de la vulnérabilité et l'exposition au risque. Donc ce qu'elle observe, c'est que sur cette vallée-là en particulier, il n'y a pas d'évolution de l'aléa, il n'y a pas une diminution marquée de l'aléa ou une augmentation, mais il y a une vulnérabilité au risque, à l'aléa, à l'avalanche, qui a fortement augmenté depuis le développement du tourisme hivernal. Donc voilà, si on parle de risque, il ne faut pas oublier l'évolution de la vulnérabilité. Donc c'est quelque chose qui est moins quantifié pour le futur. Et dans cette présentation, moi je vais surtout vous parler de l'aléa où on a le plus d'éléments à ce jour. On a des éléments surtout sur une des composantes du risque, l'aléa. Sur le terrain contrôlé aussi, certes le bilan humain est plus faible qu'en terrain non contrôlé, mais le coût matériel direct ou indirect, il est très important, même s'il reste difficilement chiffrable. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une variabilité interannuelle du bilan humain lié à ce terrain contrôlé qui est immense, parce que quand il y a un accident, souvent c'est un accident qui est dramatique. Je pense notamment à l'hôtel Rigopiano dans les Abruzzes, donc à une altitude relativement modeste, inférieure à 2000 mètres, qui a causé 29 décès en 2017 et qui était l'accident le plus dramatique depuis une centaine d'années en Italie. Donc voilà, dans cette présentation, je vais surtout vous parler de ce que je sais à peu près, parce que la communauté sait à peu près, c'est surtout l'évolution de l'aléa avec les départs spontanés. Alors je vais commencer par vous donner quelques éléments sur les observations de l'évolution des avalanches avec le changement climatique dans le passé, surtout basé sur des observations. Alors en France, on a la chance d'avoir une base de données unique qui s'appelle l'enquête permanente avalanche, l'EPA, qui est gérée par l'Office national des forêts et par l'INRAE, qui suit environ 4000 couloirs en France, parfois depuis plus d'un siècle. Donc comment c'est fait? Donc, sur la carte, là, on peut voir différents couloirs. Donc c'est les traits rouges foncés. Donc ils sont codifiés, tous ont un numéro, et un trait bleu qui indique le seuil d'observation. C'est-à-dire si une avalanche dépasse ce trait bleu, ce seuil artificiel, alors l'avalanche est notée dans une base de données. L'observateur suit une démarche assez codifiée avec des points d'observation qui sont déterminés à l'avance pour bien regarder de la même façon les avalanches à chaque fois. Donc c'est censé être le plus systématique possible. Et on a à la fois des informations sur l'occurrence d'une avalanche avec une date, mais aussi parfois des informations complémentaires, comme l'altitude de la zone de départ, le volume d'écoulement, l'altitude d'arrêt ou également le type de neige. Donc cette base de données, c'est quelque chose de vraiment très précieux pour caractériser l'activité avalancheuse en terrain contrôlé. Donc c'est surtout les départs spontanés dans les couloirs. Donc ce n'est pas forcément représentatif de l'activité avalancheuse absolue dans l'ensemble d'un massif. Donc par exemple, ce n'est pas forcément représentatif du danger d'avalanche pour les pratiquants de la montagne en haute montagne, mais ça va être quelque chose qui va être pertinent pour la caractérisation de l'avalanche des avalanches spontanées en terrain contrôlé. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette base de données-là? Donc là, je vais reprendre surtout des travaux de Nicolas Eckert de l'INRAE. La première chose, c'est comment évolue le nombre d'avalanches dans les Alpes françaises. Alors sur ce graphique, on peut voir le nombre d'avalanches par hiver et par couloir en fonction de l'année de l'hiver. Donc les observations, c'est la hauteur des barres bleues. Donc plus la barre est haute, plus il y a eu d'avalanches. Et ensuite, il y a différentes méthodes d'analyse de tendance. Donc c'est tous les traits colorés. Pardon. Donc il n'y a pas de tendance générale évidente depuis 1950. On observe surtout un pic d'activité autour des années 1980, qui correspondent aussi à des hivers plus froids et plus enneigés. Et depuis 1980, on a une tendance à la baisse. Donc voilà. Donc là, cette chronique, elle est à étendre, parce qu'elle s'arrête en 2010. Donc on est en train de travailler pour l'étendre à plus tard. Maintenant, si on regarde un autre élément qui est important, c'est savoir jusqu'où l'avalanche va. Parce qu'elle a beau se déclencher, si elle va plus ou moins loin, elle peut toucher les enjeux. Donc c'est l'altitude de l'arrêt de l'écoulement. Donc sur ce graphique, on peut voir l'altitude moyenne sur les Alpes d'arrêt de l'avalanche. Et on a considéré ici uniquement les grosses avalanches, celles qui ont une durée de retour d'environ 10 ans. Donc ce qu'on peut voir à nouveau, c'est que les avalanches descendaient plus bas autour des années 1980, qui correspondaient à des hivers plus froids et plus enneigés. Et depuis 1980, on a une remontée de l'altitude d'arrêt de ces grosses avalanches d'environ 80 mètres. Donc c'est important pour les enjeux parce que ça se traduit une probabilité d'atteindre le bas de la vallée qui est plus faible, qui est légèrement plus faible depuis les années 80. Maintenant, sur la nature de l'écoulement. Est-ce que c'est un écoulement dense, un écoulement dense avec un écoulement de poudreuse au-dessus? Ça a été quantifié également à partir de l'EPA. Donc on voit sur ce graphique la proportion d'avalanches présentant un écoulement pulvérulent, donc le nuage de neige là, qu'on voit souvent quand on voit une vidéo d'avalanche, en fonction de l'année de l'hiver. Donc là, il y a une tendance claire sur toute la période, une tendance à la diminution du nombre d'avalanches présentant un écoulement aérosol. Donc ça veut dire que c'est de la neige un peu plus chaude et un peu plus humide, et le fait que la neige impliquée dans les avalanches change légèrement, ça impacte sa rhéologie et donc potentiellement également sa trajectoire. Donc là, jusqu'à présent, je vous ai parlé d'observation de l'activité avalancheuse dans les Alpes françaises à partir de l'enquête permanente des avalanches. Maintenant, on va regarder un autre endroit avec une période beaucoup plus longue et un massif d'altitude beaucoup plus modeste. Donc là, je reprends des travaux de Flori Giacona sur le massif des Vosges, donc culminant à autour de, je crois, 1400 mètres d'altitude, sur la période 1750-2010. Donc là-dessus, il n'y a pas d'enquête permanente avalanche sur toute la période. C'est un travail de dépouille d'archives qui est assez chronophage et assez complexe, où on va analyser d'anciennes photographies, d'anciennes brochures, enfin, plein de sources différentes, et essayer de remonter à l'activité avalancheuse totale en essayant de prendre en compte les biais liés aux défauts de liste, hein, de report de l'occurrence d'une avalanche. Donc ce qu'on peut voir à ces échelles de temps sur ce massif de basse altitude, qu'il y a vraiment une diminution très importante de l'activité avalancheuse vers la fin du petit âge glaciaire, donc vers 1860. Donc voilà, dans les Vosges, des épisodes avec beaucoup d'avalanches, ça semble plus possible. Maintenant, si je regarde un peu plus loin et à une autre altitude, donc là, je reprends une étude de Ballesteros et Canova de 2018, qui ont étudié un versant typique en Himalaya des altitudes supérieures à 3000 mètres. Donc, ils ont essayé de reconstruire l'activité avalancheuse dans ce versant-là à partir des cernes des arbres. C'est-à-dire qu'une avalanche qui a un impact en arbre, elle laisse une trace sur l'arbre et qui peut se retrouver dans ses cernes. Donc, Ballesteros a pu essayer de reproduire sur ce graphique-là la probabilité qu'il y ait une avalanche de neige depuis de 1900 à 2020. Ce qu'il observe, c'est qu'à partir de 1975, il y a une nette augmentation de la probabilité d'occurrence d'avalanche. Et ce qui est expliqué, c'est que cette augmentation-là, elle est induite par les températures en hausse et l'augmentation d'avalanche de neige humide. Donc voilà, c'est le changement de la nature de l'avalanche qui cause cette augmentation de l'occurrence d'avalanche. Donc là, je vous ai parlé d'observation directe de l'activité avalancheuse. Ce qu'on fait aussi, c'est des pseudo-observations. Donc en gros, on exploite des réanalyses météorologiques, c'est-à-dire des modèles de prévision de la météo qui sont ajustés à partir d'observations du passé. À partir de ça, on peut faire tourner un modèle de neige derrière et en gros, on a une idée assez précise de à quoi ressemblait le manteau neigeux dans le passé. Sur ce graphique-là, typiquement, on voit le profil de neige au 1er février en Chartreuse à 1500 mètres. Donc la hauteur de la barre totale, c'est la hauteur de neige. Et dedans, c'est les couleurs représentent les différents types de neige. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand c'est un peu rougeâtre, c'est que c'est de la neige qui a fondu et éventuellement regelé. Quand c'est vert, c'est plutôt de la neige fraîche. Quand c'est rose, c'est de la neige assez solide, type neige à igloo. Et en bleu, c'est plutôt de la neige qui pose des problèmes pour les pratiquants de la montagne. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une variabilité interannuelle qui est très importante. Et surtout, connaître le manteau neigeux du passé, ça nous permet de mieux comprendre le lien entre l'aléa avalanche et les conditions de niveau météorologique du passé. Également, si finalement une avalanche, c'est très contrôlé par la stabilité du manteau neigeux, donc si on a une idée de à quoi ressemblait le manteau neigeux, on peut avoir une idée de quelle était sa stabilité dans le passé. Donc ça, c'est des études en cours par un collègue Benjamin Reuter au CEN, qui essaie de caractériser le nombre de jours à situation avalancheuse typique dans le passé. Ici, c'est sur Belle Donne à 2400 mètres. Et il essaie aussi d'associer à chaque jour avalancheux quel était le processus à l'origine de l'avalanche. Donc les processus, ça peut être soit c'est à cause de la neige humide, soit à cause de cumuls de neige importants, soit à cause de processus internes au manteau neigeux. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais ce qu'il observe, c'est que les avalanches de neige humide, elles apparaissent environ 15 jours plus tôt dans la saison par rapport à la période 1960-1990, et que les jours à problème sont de plus en plus liés à la présence de neige humide. Voilà, maintenant, je vais vous donner quelques mots sur la projection sur le futur. Donc ça va être un peu plus court parce qu'on a moins d'éléments. Typiquement, par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, bah, les observations directes, on n'a plus ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est finalement essayer d'utiliser la méthode que je vous ai présentée sous le nom de pseudo-observation. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à exploiter les projections climatiques issues des modèles globaux du climat. Donc, ces modèles globaux du climat, comme vous l'a expliqué Samuel, ils sont forcés par certains scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est une maille qui est quand même très grande, 150 km. Donc, si on voulait l'appliquer aux Alpes, on aurait 2 points. Donc, c'est une maille qui n'est pas assez fine. Donc ensuite, on peut descendre en échelle avec un modèle régional de climat. Donc là, on atteint une maille de l'ordre de 12 km de côté. Ça reste très très gros parce que ce qui est important pour la neige, c'est plus l'altitude que la latitude et la longitude exacte. C'est vraiment une dépendance à l'altitude qui est marquée. Donc en gros, ensuite, on a un modèle dédié à la neige qui représente chaque massif. Un massif, ça peut être par exemple Belledonne ou Vercors, comme une pyramide simplifiée, avec des bandes d'altitude de 300 mètres et différentes orientations. Donc voilà, donc on arrive avec des ajustements statistiques à transférer nos projections climatiques globales à des chronologies météorologiques possibles adaptées à la montagne. Et derrière tout cela, on peut appliquer un modèle de neige et avoir une idée de à quoi, quel est le manteau neigeux typique dans le futur. Donc bien sûr, il y a toute une cascade d'incertitudes. Donc on travaille dans un cadre ensembliste pour gérer cette incertitude. Et notamment cette incertitude, elle va dépendre de quelle est la variable qu'on regarde et aussi quel est l'horizon temporel qu'on regarde également. Donc à partir de ces projections climatiques, on peut regarder quelle est l'évolution des précipitations hivernales dans les Alpes. Donc, comme je vous l'ai dit, le cumul de neige, c'est quelque chose de critique dans la formation des avalanches. Une étude de Reichzack et Scher en 2017 montre que les précipitations hivernales totales, donc neige plus pluie en hiver, auront tendance à augmenter dans les Alpes en moyenne et en valeur extrême, de façon modérée, de quelques pourcents en 2020-2050. Et ça se renforcera en fin de siècle, selon le scénario, jusqu'à 20%. Donc c'est bien une évolution à la fois des valeurs moyennes, mais aussi des valeurs extrêmes. Comment ces précipitations neigeuses se traduisent en hauteur de neige? Donc si je regarde la Chartreuse à 1500 mètres sur un terrain plat, donc on a une diminution de la hauteur moyenne du manteau neigeux qui est marquée et qui est le plus marqué avec le scénario d'émission le plus pessimiste. Et c'est à la fois une diminution de la hauteur, mais aussi une diminution de la durée d'enneigement continue, avec une saison à neige qui se resserre autour de février. Donc moins de neige, moins longtemps, à basse altitude, et c'est lié à une hausse des températures, et avec une tendance sur les précipitations qui, sur cette étude-là, sur ce site-là, était pas dominante dans l'évolution de la quantité de neige. Voilà, je vous disais cette méthode de projection des conditions de niveau météorologique, c'était un peu la seule façon qu'on avait d'essayer de savoir ce qui allait se passer avec le changement climatique. Donc là, je vous donne juste un exemple. Donc c'est un seul modèle climatique, un seul modèle régional et un seul scénario d'émission à gaz à effet de serre. Et c'est juste le manteau neigeux typique au 1er février en Chartreuse à 1500 mètres. Donc comme tout à l'heure, la hauteur de la barre, c'est la hauteur de neige. Et les couleurs intermédiaires, c'est les différentes couches de neige avec différents types de neige. Donc je vous montre ce graphique notamment pour insister sur le fait qu'on garde une variabilité interannuelle très importante. Bien sûr, la hauteur de neige moyenne va diminuer dans le temps, mais ça n'exclut pas que parfois on ait beaucoup de neige quand même. Donc là, si on regarde à la fin du siècle, donc il ne faut pas regarder l'année exacte, hein, ça n'a pas de sens pour un modèle climatique. Mais on peut voir que dans ce modèle climatique, dans cette réalisation particulière, on a 80 cm de neige au 1er février et que ça faisait presque 20 ans que ça n'était pas arrivé. Donc, il ne faut pas oublier que les avalanches ne sont pas dépendantes de conditions uniquement moyennes, mais dépendantes de séries chronologiques assez courtes. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a moins de neige qu'il y a forcément moins d'avalanches. Ça dépend vraiment de séries chronologiques assez courtes.
Pascal, juste un point d'attention sur le temps, si on veut garder quelques
Oui,
instants
pardon.
pour les questions.
Donc ça, c'est mon avant-dernier slide avant la conclusion.
Parfait, merci.
Du coup, ensuite, comment analyser ces profils de neige dans le futur et de l'activité avalancheuse dans le futur? Donc, il y a assez peu d'études sur le sujet. On est en train de travailler activement dessus au CEN. Donc, on a une étude de Hélène Castebrunet de Météo France et de INRAE en 2014 qui montre qu'on s'attend à une décroissance de l'activité avalancheuse en nombre entre -20 et -30% à la fin du siècle, mais sans notion de sévérité associée. Mais on observe aussi qu'il y aura plus d'avalanches à plus haute altitude et au cœur de l'hiver, dont des avalanches de neige humide. Donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose sur lequel on travaille activement, soit par une approche physique où on essaie de mieux comprendre comment le manteau neigeux évolue et comment le manteau neigeux se transforme en avalanche, mais aussi avec des approches plus de machine learning, avec des apprentissages automatiques sur les observations du passé. Pour conclure, je vous donne quelques éléments clés. Donc, moins de neige, moins d'avalanche, OK, ça peut être assez vrai sur les altitudes les plus basses, parce qu'on a observé, on s'attend à moins d'avalanches à basse altitude et des avalanches qui descendent moins bas. Néanmoins, l'occurrence d'une avalanche exceptionnelle à basse altitude n'est pas à exclure complètement du fait de l'augmentation de la variabilité interne du climat, la dépendance à de courtes mais intenses séquences météorologiques. On a observé et on s'attend à un changement de la nature des avalanches avec l'occurrence de davantage d'avalanches de neige humide, même en plein hiver, ce qui peut changer leur rhéologie. Et on a observé une augmentation du nombre d'avalanches à haute altitude. Pour les avalanches provoquées en terrain contrôlé, c'est essentiellement lié aux pratiques, donc c'est difficile de faire des projections. Je vous remercie de votre attention.
Eh bien, merci Pascal, c'était passionnant et très pédagogique, donc je pense qu'on aura envie de revoir encore tes diapos. Alors moi j'aurais une ou deux questions. Peut-être tu as évoqué justement dans ta conclusion le fait qu'on avait aujourd'hui peut-être une plus grande variabilité des événements pluvieux qui paraissent plus intenses, enfin et neigeux, et donc on a eu des exemples en tout cas, semble-t-il, ces dernières saisons, notamment dans les Alpes, avec des cumuls impressionnants en quelques jours. Est-ce que ça change des choses un petit peu pour le risque d'avalanche? Est-ce que c'est des choses qui sont qui apparaissent aussi dans les modélisations climatiques?
Alors oui, les cumuls de neige importants sur des courtes périodes de temps, de 24 heures à 3 jours, c'est un facteur déterminant dans l'occurrence de grandes avalanches. Des avalanches qui peuvent toucher des enjeux en zone urbanisée ou des routes, etc. Donc ça, voilà, c'est pas la hauteur moyenne sur l'hiver qui va être critique, bien qu'il y ait quelques corrélations, parce que enfin, les deux sont quand même intimement liés aussi. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre ça explicitement en compte dans notre modélisation de niveau météorologique. Hein. Voilà, c'est le manteau neigeux complet qui est traité, enfin qui est regardé pour savoir quel est l'état du manteau neigeux de manière explicite. Donc il va prendre en compte le fait qu'il y ait des cumuls de neige importants, qu'il y ait eu un réchauffement rapide, etc. Donc c'est explicitement pris en compte. Après, la difficulté quand même, c'est que quand on cherche les extrêmes assez loin dans la distribution, on peut rater quelques événements, quoi. La queue de la distribution va être moins bien représentée que la valeur moyenne. Donc il y a une incertitude plus marquée sur la queue de la distribution des valeurs extrêmes que sur la valeur moyenne.
Merci Pascal. J'avais envie de revenir sur la question qu'on avait évoquée précédemment autour du couvert forestier, qui est aussi un élément essentiel dans le fait que les avalanches se déclenchent ou pas. Mmh. Et comment est-ce que, alors à la fois sur le passé, parce que tu nous as montré un diagramme sur l'évolution du risque d'avalanche dans les Vosges, et moi c'est vrai que ça m'a fait penser donc le fait qu'il y ait plus d'avalanches donc à la fin du 19e siècle aussi à la déforestation que connaissait la France à ce moment-là, et donc qui a donné naissance d'ailleurs à la création du RTM, du service de restauration des terrains en montagne, et donc un climat futur de la même façon, donc peut-être aujourd'hui lié aussi à la déprise de l'agropastoralisme et le fait que la forêt gagne vers des altitudes supérieures en plus du réchauffement. Comment est-ce qu'on arrive à prendre en compte ce lien forêt-avalanche?
Alors oui, donc ça c'est quelque chose, c'est une question pas facile. Donc il y a une étude récente là de Talin Zeib à l'INRAE et à Météo France qui s'est posé la question de manière détaillée sur la vallée de la Haute-Maurienne. Et du coup, ce qu'elle a observé, c'est que sur cette vallée-là, les zones de départ étaient suffisamment hautes pour que, en fait, la reforestation ait un impact limité sur la formation des avalanches. Donc voilà la zone de départ. Parce que le couvert forestier dans une autre zone de départ, ça stabilise énormément le Montenegeu. Pas du fait qu'il y ait des ancrages, qu'il y ait des troncs en plein milieu, mais plutôt que les conditions de température, etc., la variabilité du Montenegeu est différente, la variabilité est plus grande, qui font que l'évolution de la neige est différente, et du coup, il y a moins d'avalanches enfin, moins de départs d'avalanches dans les forêts. Ensuite, il y a aussi la question de l'écoulement d'une avalanche. Donc, la présence du forêt, elle peut arrêter de petites avalanches, mais pour les avalanches extrêmes, en fait, ce n'est pas suffisant. Ça peut même être un facteur aggravant du pouvoir destructeur d'une avalanche. Si on regarde l'avalanche de Rigopiano Piano là, dans les Abruzzes en 2017 en Italie, si on regarde la photo satellite avant l'avalanche, en gros, le couvert d'avalanche, on ne le voit presque plus parce qu'il a été complètement reboisé, parce qu'il n'y avait pas eu d'avalanche depuis 30 ans. Et pourtant, voilà, l'avalanche exceptionnelle dans la zone départ qui n'était pas reboisée, elle a tout arraché et la forêt n'a servi à rien ou a été un effet aggravant, quoi. Donc, c'est pas quelque chose de facile parce que ça dépend vraiment de la zone de départ et pas uniquement voilà, il suffit pas d'avoir une forêt entre la zone de départ et la maison pour être protégé du risque. Et donc c'est pas vraiment ma spécialité. Moi, je traite plutôt du processus physique de l'avalanche. Et voilà, il y a une étude de Xaib en 2020 qui a regardé ce problème en détail. Et la conclusion, c'était pour l'instant, c'est la diminution de l'aléa à cause de la reforestation n'était pas critique dans cet exemple-là.
Merci Pascal, et désolé, je ne te pose pas des questions faciles. J'en avais une dernière peut-être. On a vu sur les réseaux sociaux des vidéos d'avalanches qui sont très, très liquides, donc ces avalanches de neige humide, et qui atteignent des zones des fois très basses dans les vallées. Donc je comprends que c'est un petit peu le sens de l'évolution du risque d'avalanche. Qu'est-ce que ça change? Tu dis que la trajectoire des avalanches peut être changée, donc. Et j'imagine aussi que le pouvoir érosif des avalanches aussi peut être modifié. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus?
Alors, il y a l'équipe de Thierry Fogg à l'INRAE qui travaille beaucoup sur l'écoulement des avalanches. Et notamment, ils ont essayé à partir de la réanalyse niveau météorologique, d'estimer en gros, dans leur modèle, il y a un paramètre qui est très important, c'est le coefficient de friction de la neige. Et en gros, le coefficient de friction de la neige, il dépend de la qualité de la neige dans la zone de départ et dans la zone érodée lors de l'écoulement. Donc ils observent notamment que le coefficient de friction, il augmente avec la température de la neige. Donc si le coefficient de friction augmente, ça a tendance à avoir des avalanches qui vont moins loin. Et après, si la neige devient détrempée et remplie d'eau, voilà, on n'a plus la même tendance. Donc on peut avoir une diminution du coefficient de friction quand la neige est complètement mouillée. Donc ça peut changer jusqu'où va l'avalanche. Également aussi la forme de l'écoulement. Il y a des écoulements qui sont dits en plug, où c'est un gros bloc de neige qui avance comme un bloc solide avec juste une friction basale. Et ça crée parfois des doigts dans l'écoulement qui peuvent tourner et atteindre des zones pas habituelles si on avait une avalanche de neige sèche qui allait tout droit dans la pente, quoi. Donc, c'est comme ça que ça peut modifier la rhéologie de l'avalanche. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais.
Si, si. Donc, en tout cas, en termes de processus à l'été, je comprends qu'en termes d'analyse sur le terrain, donc c'est compliqué, qu'il y a besoin d'avoir des modélisations vallée par vallée pour voir finalement, selon la topographie, quelles zones pourraient être concernées par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal. C'était passionnant. Donc,